Bonjour les oreilles et bienvenue dans l'émission Conte Goutte, une émission dédiée au conte, à son contexte et à ses multiples interprétations. Une émission dédiée à toutes ces histoires qu'on raconte pour s'endormir, se réveiller, pour partir et peut-être revenir. Je vous donne une poignée de mots pour qu'ils ne tombent ni de haut ni dans l'oubli, faites-en bon usage. Je suis Caroline et je vous propose de faire la route en ma compagnie pour une petite demi-heure et à toute heure du jour et de la nuit, dimanche et jours fériés compris, en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble. Dans la précédente émission, j'ai évoqué la nourriture dans la littérature à travers son côté sombre et ce qu'elle peut faire surgir de mauvais chez les personnages. Mais j'ai aussi abordé l'intelligence et la malice que la nourriture peut convoquer. Aujourd'hui, il sera question de gourmandise et de beauté à travers des scènes délicieuses dans les contes, les romans et la poésie. L'un des personnages les plus gourmands de la littérature est sans doute Gargantua. Ce personnage inventé par Rabelais en 1542. Tout est démesuré chez ce personnage. Depuis le temps qu'il passe dans le ventre de sa mère jusqu'à sa taille, sans parler de son appétit. Voici un extrait du chapitre 38, « Comment Gargantua mangea 6 pèlerins en salade ». Notre sujet veut que nous racontions ce qui arriva à 6 pèlerins qui venaient de Saint-Sébastien près de Nantes. Pour se loger, cette nuit-là, de peur des ennemis, ils s'étaient cachés au jardin sur les fanes de pois entre les choux et les laitues. Gargantua, qui se sentait quelque peu l'estomac creux, demanda si l'on pourrait trouver des laitues pour en faire une salade. Apprenant qu'il y en avait qui étaient parmi les plus belles et les plus grandes du pays, car elles étaient grandes comme des pruniers ou des noyers, il voulut y aller lui-même et ramassa à la main ce que bon lui semble. En même temps, il ramassa les 6 pèlerins qui avaient une si grande peur qu'ils n'osaient parler ni tousser. Comme il commençait par les laver à la fontaine, les pèlerins se disaient l'un à l'autre à voix basse « Que faut-il faire ? Nous nous noyons ici au milieu de ces laitues. Parlerons-nous ? Oui, mais si nous parlons, il va nous tuer comme des espions. » Comme ils délibéraient ainsi, Gargantua les mit avec ses laitues dans un des plats de la maison, grand comme la tonne de Cîteaux, et commença à les manger avec l'huile, vinaigre et sel pour se rafraîchir avant de souper. Il avait déjà avalé 5 des pèlerins. Le 6e restait dans le plat, caché sous une laitue, et seul son bourdon dépassait. En le voyant, Grand Gousier dit à Gargantua « Je crois que c'est là une licorne de limaçon. Ne mangez pas ça. Pourquoi ?» dit Gargantua. « Ils sont bons, tous moi-ci !» Et tirant le bourdon, il souleva en même temps le pèlerin, il le mangeait bel et bien. Puis il but une effrayante rasade de vin pinot et ils attendirent que l'on apprêtât le souper. Les pèlerins ainsi dévorés s'écartèrent du mieux qu'ils purent des meules de ses dents. Ils pensaient qu'on les avait jetés dans quelque basse fosse des prisons, et quand Gargantua but sa grande rasade, ils crurent se noyer dans sa bouche. Le torrent de vin faillit les entraîner jusqu'au gouffre de son estomac. Toutefois, en sautant avec leurs bourdons comme font les pèlerins de Saint-Michel, ils se dégagèrent à la lisière des dents. Mais, par malheur, l'un d'eux, tâtant le terrain avec son bourdon pour savoir s'ils étaient en sécurité, frappa rudement dans le creux d'une dent gâtée et heurta le nerf de la mâchoire, ce qui causa une très vive douleur à Gargantua, qui commença à crier sous l'effet de la rage qu'il endurait. Donc, pour soulager son mal, il fit apporter son cure-dent et, sortant vers le noyer grolier, il vous dénicha, messieurs les pèlerins, car il en extirpait un par les jambes, un autre par les épaules, un autre par la besace, un autre par la bourse, un autre par l'écharpe. Quant au pauvre air qu'il avait frappé de son bourdon, il l'accrocha par la braguette. Toutefois, ce fut une chance pour lui, car elle lui perça une enflure chancreuse qu'il martyrisait depuis qu'ils avaient dépassé Ancenis. C'est ainsi que les pèlerins dénichés s'enfuirent à travers les vignes en grand trot et que s'apaisa la douleur. Au même moment, Gargantua fut appelé par Eudémon pour le souper car tout était prêt. « Je m'en vais donc, dit-il, pisser mon malheur. » Alors il pissa si copieusement que l'urine coupa la route aux pèlerins qui furent obligés de franchir la grande rigole. De là, passant par l'orée du petit bois, ils tombèrent tous, à l'exception de Fourmilier, dans une fosse qu'on avait creusée en plein milieu du chemin pour prendre les loups à la chausse-trappe. Grâce à l'ingéniosité dudit Fourmilier, qui rompit les liens et le cordage, ils purent s'échapper. Bien sûr, ici, tout est démesuré, mais on sourit de cette fantaisie et de cet appétit débordant. Il y a un plaisir à manger et une réelle difficulté à s'arrêter. D'ailleurs, ce n'est pas sans rappeler Hansel et Gretel dans ce conte des frères Grimm qui, une fois arrivés devant la maison de la sorcière, n'arrivent pas à réfréner leur gourmandise. Et quitte à parler de gourmandise, on pense aussi à Elisabeth Gilbert qui, dans son roman « Mange, prie, aime », raconte son premier repas pris à Rome. Mon premier repas romain a été un petit dîner de rien du tout. Une assiette de pâtes, des spaghettis carbonara, accompagnés d'épinards sautés à l'ail. J'ai également mangé un artichaut, juste pour goûter. Les Romains sont effroyablement fiers de leurs artichauts. Et puis, il y avait un bonus, une petite surprise, gracieusement offerte par la serveuse, des beignets de fleurs de courgettes farcies d'un peu de fromage. Ces fleurs avaient été apprêtées avec tant de délicatesse qu'elles n'avaient probablement pas remarqué qu'on les avait cueillies. Après les spaghettis, j'ai essayé le veau. Ah, j'ai aussi bu une bouteille de vin rouge, la cuvée du patron, à moi toute seule. Et j'ai grignoté du pain à l'huile d'olive qui sortait du four. Et en dessert, j'ai pris du tiramisu. Repas légèrement gargantuesque, mais pour qui a déjà mangé en Italie, est tout à fait compréhensible. Quant à Alice, de Alice au Pays des Merveilles, je ne peux m'empêcher de la considérer comme une gourmande incurable. On a coutume d'évoquer l'enfance, la fantaisie, le pouvoir de l'imagination dans cette œuvre de Lewis Carroll, mais on oublie parfois que Alice mange et boit tout ce qui lui tombe sous la main. Ça va de la petite bouteille portant l'étiquette « Bois-moi » au biscuit sur lequel est écrit « Mange-moi », en passant par la bouteille dans la maison du lapin, les cailloux qui se transforment en petits fours, les morceaux de champignons, etc., etc. Ici, la gourmandise est le symptôme de la curiosité, de la soif d'aventure qui anime Alice, car, comme elle le dit, « Je sais que quelque chose d'intéressant doit se produire quand je mange ou quand je bois. » Mais si manger permet de vivre de nouvelles aventures, ça permet aussi de se souvenir. Il y a ces plats, ces mets qu'on mangeait dans l'enfance et qui, à chaque fois qu'on les mangera au cours de notre vie, auront le pouvoir magique de nous transporter quelques décennies en arrière. Proust l'évoque parfaitement dans son roman Du côté de chez Swann avec l'épisode de la Madeleine. Mais manger pour se souvenir, ou se souvenir en mangeant, apparaît aussi pour celles et ceux qui ont émigré, qui ont intégré une autre culture. Viviane Chocache l'évoque avec humour dans son roman « Bazar Magyar ». Née en France de parents hongrois, Viviane part à la recherche de ses origines et à l'assaut de la Hongrie à travers la cuisine de ce pays. Elle y va pour la première fois au cours de son adolescence pour un enterrement. De ce triste événement qui ouvre le roman, elle en fait un menu délicieux qui se déroule sous nos yeux. Voici donc ses premières impressions quand elle arrive en Hongrie. Gorgée de sucre et de rhum, d'une confiture fumante, légèrement âcre, il paradait. Des beignets modelés comme des petits paniers, fourrés aux abricots en leur centre, spongieux et soyeux à la fois. Ces sucreries qui se pavanaient dans des compotiers. Un homme volumineux, le pantalon rattrapé par des bretelles, les joues rouges et les sourcils tombants, les saisissait fiévreusement pour les déguster en me faisant des clins d'œil. Sa langue était miel, et cette espèce d'ogre me souhaitait la bienvenue à sa manière. Il disait bien quelque chose, mais les mots se perdaient dans une glissade de confiture orange à travers ses lèvres épaisses. La langue hongroise avait du corps et je saisis à mon tour un beignet d'or avec gourmandise et joie. J'avais 11 ans, c'était mon premier enterrement. Ici, c'est un souvenir heureux, délicieux qui émerge de cette autre culture. Cependant, ce n'est pas toujours avec gourmandise que les plats nous reviennent à l'esprit. Dans son roman « Rêve oublié », Léonore de Recondo évoque le destin d'une famille qui quitte l'Espagne pour la France afin d'échapper aux franquistes. Ce départ précipité se fait le jour de l'anniversaire de l'un des fils de la famille, tandis que l'habituel gâteau d'anniversaire vient d'être fait. En voici un extrait. Amma s'est levée tôt ce matin-là pour préparer le gâteau de riz. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sansu, et elle veut que le gâteau ait le temps de refroidir avant le déjeuner. Elle mélange avec patience le riz, le lait chaud, le sucre et la cannelle. Sansu se souvient de ce 18 août où toute la famille a dû fuir Irun. Le jour de son anniversaire, le gâteau laissé sur la table, Depuis ce moment-là, les deux événements se sont imbriqués tant et si bien que chaque gâteau de riz a maintenant le goût de la fuite, de l'oubli, des effluves perdues de cannelle et de lait caramélisé. On peut manger pour se souvenir, et parfois on aimerait manger et avoir oublié. Et parfois, manger, c'est uniquement vivre l'instant présent. C'est sentir les saveurs se déployer, les odeurs se mélanger, c'est voir les formes, les couleurs apparaître. Comme au temps de Polaroid, Philippe Delerme a, dans son recueil La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, capturé ces moments heureux procurés par les nourritures. Parce que manger, ce n'est pas que mastiquer. C'est aussi l'instant qui va avec, le rituel qui l'accompagne. La preuve avec l'extrait suivant, le croissant du trottoir. On s'est réveillé le premier. Avec une prudence de guetteur indien, on s'est habillé, faufilé de pièce en pièce. On a ouvert et refermé la porte de l'entrée avec une méticulosité d'horloger. Voilà, on est dehors, dans le bleu du matin ourlé de rose. Un mariage de mauvais goût s'il n'y avait le froid pour tout purifier. On souffle un nuage de fumée à chaque expiration. On existe, libre et léger, sur le trottoir du petit matin. Tant mieux si la boulangerie est un peu loin. Kéroak, main dans les poches, on a tout devancé. Chaque pas est une fête. On se surprend à marcher sur le bord du trottoir comme on faisait enfant, comme si c'était la marge qui comptait, le bord des choses. C'est du temps pur, cette maraude que l'on chipe au jour quand tous les autres dorment. Presque tous. Là-bas, il faut, bien sûr, la lumière chaude de la boulangerie. C'est du néon, en fait, mais l'idée de chaleur lui donne un reflet d'ombre. Il faut ce qu'il faut de buée sur la vitre quand on s'approche, et l'enjouement de ce bonjour que la boulangère réserve au seul premier client, complicité de l'aube. 5 croissants, une baguette moulée pas trop cuite. Le boulanger en maillot de corps fariné se montre au fond de la boutique et vous salue, comme on salue les braves à l'heure du combat. On se retrouve dans la rue, on le sent bien. La marche du retour ne sera pas la même. Le trottoir est moins libre, un peu embourgeoisé par cette baguette coincée sous un coude, par ce paquet de croissants tenu de l'autre main. Mais on prend un croissant dans le sac. La pâte est tiède, presque molle. Cette petite gourmandise dans le froid, tout en marchant. C'est comme si le matin d'hiver se faisait croissant de l'intérieur. Comme si l'on devenait soi-même four, maison, refuge. On avance plus doucement, tout imprégné de blond pour traverser le bleu, le gris, le rose qui s'éteint. Le jour commence et le meilleur est déjà pris. Baby, do you understand me now? Sometimes you see that I am mad. Don't you know, no one alive can always be an angel. When everything goes wrong, you see some bad. But I am just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. And I am just a soul whose intentions are good. You didn't know I never meant to take it out on you. Oh, life has its problems, and I've got more than my share. But that's one thing I never mean. Vous êtes sur Radio Campus Grenoble 90.8. Vous êtes toujours à l'écoute de Conte Goutte, une émission dédiée au conte, à son contexte et à ses multiples interprétations. Au croisement de la gourmandise et de la beauté, il y a donc ce texte de Delerme. Oui, parce que parler de nourriture, ça peut aussi être beau. Quand on pense aux couleurs et aux formes de tout ce qui se passe dans nos assiettes, on peut se sentir une âme de poète. Écoutez donc cet extrait du roman « Le ventre de Paris » de Zola et je vous assure qu'après ça, vous verrez différemment les étals du marché. Le jour se levait lentement d'un gris très doux, lavant toute chose d'une teinte claire et d'aquarelle. Cet âme moutonnant comme des flots pressés, ce fleuve de verdure qui semblait couler dans l'encaissement de la chaussée, pareil à la débâcle des pluies d'automne, prenait des ombres délicates et perlées, des violets attendris, des roses teintées de lait, des verts noyés dans des jaunes, toutes les pâleurs qui font du ciel une soie changeante au lever du soleil. Et à mesure que l'incendie du matin montait en jet de flamme au fond de la rue Rambuteau, les légumes s'éveillaient davantage, sortaient du grand bleuissement traînant à terre. Les salades, les laitues, les scaroles, les chicorées, ouvertes et grasses encore de terreau, montraient leur cœur éclatant. Les paquets d'épinards, les paquets d'oseilles, les paquets d'artichauts, les entassements d'haricots et de pois, les empilements de romaine liés d'un brin de paille, chantaient toute la gamme du vert, de la laque verte d'Écosse au gros vert des feuilles. Gamme soutenue qui allait en se mourant jusqu'aux panachures des pieds de céleri et des bottes de poireaux. Mais les notes aiguës, ce qui chantait plus haut, c'était toujours les taches vives des carottes, les taches pures des navets semées en quantité prodigieuse le long du marché, l'éclairant du bariolage de leurs deux couleurs. Au carrefour de la rue des Halles, les choux faisaient des montagnes, les énormes choux blancs serrés et durs comme des boulets de métal pâle. Les choux frisés dont les grandes feuilles ressemblaient à des vasques de bronze, les choux rouges que l'aube changeait en des floraisons superbes. À l'autre bout, l'ouverture de la rue Rambuteau était barrée par une barricade de potimarrons orangés sur deux rangs. Et le vernis mordoré d'un panier d'oignons, le rouge saignant d'un tas de tomates, l'effacement jaunâtre d'un lot de concombres, le violet sombre d'une grappe d'aubergine, ça et là s'allumaient. Pendant que de gros radis noirs, rangés en nappes de deuil, laissaient encore quelques trous de ténèbres au milieu des joies vibrantes du réveil. Zola se laisse charmer par la beauté des fruits et légumes, par les formes et les couleurs. Sa description est belle, bien sûr. Après avoir entendu ça, on a tous envie d'aller au marché. Mais on pourrait presque lui reprocher sa facilité. Parler de l'oranger d'un potiron et des mille et une nuances du vert des salades, c'est tout de même déjà aller chercher vers ce que la nature a fait de plus beau. Mais dans le parti pris des choses, Francis Ponge, en décrivant les objets et aliments du quotidien, réhabilite et embellit les choses les plus inattendues. Parce qu'il ne fait pas que les décrire, ces choses, il montre aussi ce qu'on oublie de voir. Il les décrit brièvement avec juste ce qu'il faut de détails pour nous mettre sous le nez ce qu'on voit tous les jours mais qu'on oublie de regarder. Écoutez donc le texte sur l'huître. L'huître, de la grosseur d'un galet moyen et d'une apparence plus rugueuse, d'une couleur moins unie, brillamment blanchâtre. C'est un monde opiniâtrement clos. Pourtant, on peut l'ouvrir. Il faut alors la tenir au creux d'un torchon, se servir d'un couteau ébréché et peu franc, s'y reprendre à plusieurs fois. Les doigts curieux s'y coupent, s'y cassent les ongles, c'est un travail grossier. Les coups qu'on lui porte marquent son enveloppe de rond blanc, d'une sorte de halo. À l'intérieur, l'on trouve tout un monde, à boire et à manger. Sous un firmament, à proprement parler, de nacre, les cieux d'en dessus s'affaissent sur les cieux d'en dessous pour ne plus former qu'une mare, un sachet visqueux et verdâtre, qui flue et reflue à l'odeur et à la vue, frangé d'une dentelle noirâtre sur les bords. Parfois très rare, une formule perle à leur gosier de nacre, d'où l'on trouve aussitôt à s'orner. Quel savoir-faire pour parvenir à décrire simplement une huître et à y insuffler juste ce qu'il faut pour qu'on la voie différemment, pour qu'on y voie du beau. Et puisque nous en sommes à entremêler beauté et nourriture, souvenir et légèreté, je vous propose de terminer cette émission par un extrait de Prison et Paradis, écrit par Colette, qui saura à coup sûr vous réconforter dans les moments durs. Le vin d'orange. Il date d'une année où les oranges, du côté d'hier, furent belles et mûries au rouge. Dans 4 litres de vin de Cavalère, sec, jaune, je versais 1 litre d'Armagnac fort honnête et mes amis de se récrier. Mais quel massacre ! Une eau-de-vie de si bon goût, la sacrifier à un ratafien imbuvable ! Au milieu des cris, je coupais, je noyais 4 oranges coupées en mame, un citron qui pendait le moment d'avant au bout de sa branche, un bâton de vanille argenté comme un vieillard, 600 grammes de sucre de canne. Un bocal ventru, bouché de liège et de linge, se chargea de la macération qui dura 50 jours. Je n'eus plus qu'à filtrer et mettre en bouteille. Si c'est bon, rentrez seulement chez vous, parisienne, à la fin d'un dur après-midi d'hiver ou de faux printemps, scindelé de pluie, de grêle, fouetté de soleil pointu. Frissonnez des épaules, mouchez-vous, tâtez votre front, mirez votre langue, enfin geignez. Ah, je sais pas ce que j'ai. Je le sais, moi. Vous avez besoin d'un petit verre de vin d'orange. C'était l'émission Compte-Goutte. Je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine émission sur Radio Campus Grenoble 90.8.